VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 18h à Bangui, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, la Cour suprême a rejeté aujourd'hui le pourvoi en cassation de Simone Gbagbo, l'ex-première dame du pays, ouvrant définitivement la voie à son procès pour crime de guerre. L'avocat qui assure la défense de Madame Gbagbo, Maître Rodrigue Dadjé, s'est dit déçu d'une décision qu'il qualifie de politique. On l'écoute au micro d'Éric Manirakiza.
J'attendais beaucoup mieux de la Cour suprême. J'attendais qu'elle soit la Cour suprême, la haute cour qui statue en droit. Malheureusement, sous la pression du pouvoir politique, elle a préféré rendre une décision politique. Je suis complètement déçu parce que c'est une décision qui va rester dans les archives de la Côte d'Ivoire. Et 20 ans, 30 ans après, on verra qu'une décision pareille a été rendue, mais en contradiction de la loi, complètement en contradiction de la loi.
Quelles sont les conséquences éventuelles de cette décision?
C'est l'ouverture des assises, c'est tout. Et l'ouverture des assises, excusez-moi, je sais à 100% que Mme Gbagbo va être condamnée. Parce que le pouvoir politique veut que Mme Gbagbo soit condamnée, elle sera condamnée. Mon rôle sera au cours de l'assise de démontrer à l'opinion nationale et internationale que Mme Gbagbo n'a rien à se reprocher et qu'il n'y a aucun élément qui l'accable. Après, si la justice veut rendre une décision pour rendre service au pouvoir politique, ça c'est leur problème. S'ils veulent rentrer dans l'histoire en ayant été ceux qui rendent des décisions politiques, ben, ils en seront responsables vis-à-vis de l'histoire. Mais au moins, Mme Gbagbo et nous aurons fait notre part de montrer qu'elle n'a rien à voir avec les crimes qu'on veut lui faire porter.
Maître Rodrigue Dadjé, avocat de Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire. Au Mali, un responsable du groupe djihadiste en Sardine a déclaré aujourd'hui à Bamako que son groupe retenait 3 collaborateurs du CICR, la Croix-Rouge internationale, qui, selon cette organisation humanitaire basée à Genève, ont été interceptés sans effusion de sang le week-end dernier dans la région de Kidal, dans le nord-est du pays. En contrepartie de la remise en liberté des 3 humanititaires avec lesquels le CICR affirme avoir perdu contact depuis le 16 avril, en Sardine réclame la libération du guide des 3 captifs Miaten Ag Mayaris, arrêté par la force française Barkhane, qui traque les djihadistes dans le Sahel. C'est ce qu'a expliqué à l'AFP ce responsable, Noureddine Ag Mohamed. Afrique centrale maintenant, au Tchad, l'attente des résultats de la présidentielle du 10 avril est longue et la population vit dans la peur de possibles conflits post-électoraux, vu les déclarations contradictoires des acteurs impliqués dans la course à la présidence. Plus de précisions avec notre correspondant N'Djamena, André Kodmajingar.
Selon le code électoral, la CENI, l'organe habilité à départager les candidats, dispose de 15 jours francs après le premier tour pour donner le résultat provisoire. Mais déjà, les partisans du parti au pouvoir organisent depuis quelques jours des balles de réjouissance dans les différents bureaux de soutien et installent l'écran géant à la place de la nation pour savourer la victoire de leur candidat au premier tour. Ceux de l'opposition menacent de ne pas reconnaître les institutions qui seront issues de ce scrutin si la CENI déclare gagnant le candidat du parti au pouvoir au premier tour. La population quant à elle, vit dans la psychose totale. Les nantis commencent à faire des prévisions et les démunis se remettent à Dieu. C'est dans ce suspense que deux activistes des droits de l'homme, à savoir Narmadi Céline, porte-parole de la coalition Trop c'est trop, qui vient d'être condamnée à 4 mois avec sursis, et son adjoint Manga Jean Bosco, viennent de quitter le pays. Selon leurs compagnons de lutte, les deux font l'objet de menaces à la veille de la publication du résultat. Par ailleurs, Diaonadji Diawer, délégué du 5e arrondissement de la ville de Mundu et militant du candidat Laoukin Kouraïou Médar du parti convaincu tchadienne pour la paix et le développement, lui, a été arrêté à son bureau ce mercredi 20 avril par le commissaire de l'ANS, Agence nationale de sécurité, et gardé à la brigade territoriale de la ville de Mundu. André Kodmajingar N'Djamena pour VOA Afrique.
En RCA, première réunion du conseil municipal de Bangui cette année, objectif de cette réunion 3 jours, permettre aux maires des 8 arrondissements de la capitale et aux conseillers municipaux de définir des stratégies de relance de leurs communes respectives. Le projet de budget de l'année 2016 devrait être aussi adopté. On écoute Hyacinthe Rodobodé, maire de Bangui.
Le conseil municipal se réunit de manière statutaire parce que le conseil municipal, c'est ce que, par exemple, au niveau de l'État, est le conseil des ministres. Et donc, c'est le conseil municipal qui décide de tout ce qui doit servir à la bonne administration, bonne gestion de sa collectivité territoriale. Et donc, c'est le premier conseil municipal de l'année 2016. Et pour être en harmonie avec le contexte actuel, nous sommes revenus à l'ordre constitutionnel, ça veut dire quoi? Maintenant, toutes les structures administratives, tant au niveau local que national, doivent fonctionner, c'est-à-dire selon les textes qui les régissent.
Hyacinthe Rodobodé, maire de Bangui, propos recueillis par notre correspondant dans la capitale, Freeman Sipila.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Violence au Burundi, au moins 3 personnes dont un officier de l'armée, tué mercredi soir à Bujumbura et dans le sud du pays, selon l'armée et l'administration nationale. Les mobiles de l'assassinat du colonel dans un quartier du nord de la capitale ne sont pas encore connus. Les deux autres victimes ont été abattues dans la province méridionale de Bururi. Plus de détails avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Devant la maison de feu colonel Emmanuel Buzubona, assise au quartier Bukirasazi de la zone Kinama au nord de Bujumbura, des voisins sont en deuil. Ce colonel de l'armée burundaise a été tué mercredi soir par des hommes armés alors qu'il rentrait chez lui. Les témoignages des habitants de Bukirasazi affirment qu'il a été abattu par des gens armés alors qu'il revenait d'une station faire le plein d'essence de sa moto. Le porte-parole de l'armée, le colonel Gaspard Waratuza, affirme que les enquêtes ont commencé pour identifier les criminels. Gaspard Waratuza indique qu'il y a 5 mois, il était en mission dans une école appelée Staff College de Dar es Salaam en Tanzanie. Feu colonel Emmanuel Buzubona attendait calmement une nouvelle affectation. Par ailleurs, sur les collines Kivumu et Mushishima, en commune de Mugamba, province de Bururi, au sud du Burundi, 2 personnes ont été tuées mercredi soir dans un bistrot, selon le gouverneur Christian Nkurunziza. Mais d'autres sources parlent de 4 personnes tuées, dont un enseignant d'une école primaire. Depuis plusieurs jours, des assassinats et tueries sont observés dans plusieurs localités du Burundi, malgré la calmie relative des derniers mois. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En Zambie, le président Edgar Lungu a affirmé aujourd'hui avoir honte des violences xénophobes qui ont secoué la capitale Lusaka en début de semaine. Et il a invité les ressortissants étrangers à regagner leur maison. Des propos tenus lors d'une visite dans une église de la capitale qui a recueilli quelques 400 étrangers. Les émeutes de lundi et de mardi ont éclaté après la découverte de 7 cadavres amputés de plusieurs organes. Les violences ont visé des immigrants rwandais et burundais vivant dans des bidonvilles de Lusaka. La foule en colère a saccagé leur maison et commerce, provoquant la fuite de centaines d'immigrés. Et puis au Soudan du Sud, le gouvernement du président Salva Kiir et l'ex-rébellion déclarent avoir conclu un accord pour laisser l'ancien chef rebelle Riek Machar revenir dans la capitale pour former un gouvernement d'union nationale. Le point avec Nani Talani.
Riek Machar est attendu aujourd'hui à Juba, a annoncé l'un de ses porte-parole, James Gadek Dak, depuis Nairobi au Kenya. Son retour, initialement prévu lundi, avait été repoussé pour des raisons logistiques, a précisé la même source. Machar et son rival, le président Salva Kiir, ont signé un accord en août pour mettre fin à un conflit de 2 ans. Le retour annoncé de Riek Machar à Juba suscite un fragile espoir de règlement d'une guerre civile de plus de 2 ans qui a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 2,3 millions de déplacés. Il signifie la relance de l'accord de paix signé le 26 août 2015. Le texte prévoit en effet un cessez-le-feu et un mécanisme de partage du pouvoir entre les 2 hommes forts du pays.
Fin du sommet du Conseil de coopération du Golfe à Riyad en Arabie Saoudite. Dans des commentaires après la réunion, le président américain Barack Obama a dit que les États-Unis et les monarchies du Golfe étaient unis dans le combat pour détruire le groupe djihadiste État islamique. Concernant l'Iran, rival chiite des Royaumes sunnites du Golfe, le chef de l'exécutif américain a déploré les activités déstabilisatrices de Téhéran, mais il a aussi préconisé le dialogue et exhorté l'Iran à régler ses différends avec ses voisins par des moyens pacifiques. Le sommet a confirmé l'intensification de la coopération militaire entre les États-Unis et les pétromonarchies du Golfe, déjà mentionnée hier par Ashton Carter, le patron du Pentagone et du SFAL.
Ashton Carter, secrétaire américain à la défense, s'exprimait à Riyad après une réunion avec ses homologues du Golfe. Le refus de Washington d'intervenir en Syrie pour déboulonner Bachar al-Assad et les négociations avec l'Iran, le grand rival chiite, étaient des pommes de discorde avec les monarchies du Golfe. Mais l'accélération de la coopération militaire proposée par Washington lors du sommet de Camp David semble avoir porté ses fruits. D'après le patron du Pentagone, en une année, les États-Unis ont autorisé plus de 33 milliards de ventes d'équipements militaires aux pays du Conseil de coopération du Golfe. Les patrouilles communes de navires de guerre se sont multipliées, tout comme les exercices militaires, avec un projet de défense aérienne et antimissile commun pour les 6 pays.
Merci, Idriss Fall. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.